on meurt de maladies et de causes qui ailleurs les personnes seraient sauvées, ça c'est clair. Donc c'est un ensemble, ressources humaines, infrastructures, formation, vision, monitoring, sanctions.
Des sanctions contre les mauvais agents.
Quand les gens ne font pas le travail pour lequel ils sont payés, sanctions, tout ça mis ensemble, c'est que si tout ça était amélioré, je suis sûre que j'aurais un mieux dans la mortalité de notre population.
La Fondation a mis en place un grand laboratoire. Quel est l'impact de ce laboratoire au sein de la population et dans le milieu scientifique africain?
Au sein de la population, je ne dirais pas que l'impact est visible pour le moment, parce que nous formons par exemple des jeunes docteurs.
Former un docteur, ça demande beaucoup de temps, c'est un investissement à long terme.
La formation d'un docteur, c'est minimum 3 ans, maximum 5 ans. Donc c'est un investissement sur le long terme. Et ensuite, il va travailler et là devient productif.
Combien de docteurs avez-vous déjà formé, si vous pouvez connaître le nombre ou de façon approximative?
Nous avons maintenant formé plus d'une dizaine de jeunes docteurs congolais qui sont déployés dans le pays. Et c'est un nouvel esprit que nous insufflons. Donc pour moi, je pense qu'on commencera à voir l'impact de la Fondation dans les 5-10 prochaines années. Oui, on se rendra compte, tiens, j'ai été formé à un moment donné ou à un autre par la Fondation congolaise pour la recherche médicale. Et j'agis de telle manière parce que c'est ça ma formation.
Quel est le profit des personnes que vous formez? Seulement des scientifiques?
Nous ne formons pas seulement scientifiquement, mais aussi moralement, en faisant comprendre quelle est notre responsabilité. C'est-à-dire que les moyens que nous mettons sur la tête de nos étudiants, on leur dit que ce n'est pas pour leurs beaux yeux, c'est pour pouvoir rendre ça, pas à la fondation, mais c'est rendre cet investissement au pays. Et ça, ils le comprennent bien. Et je pense que quand nous aurons comme ça une centaine, 200, plusieurs formés avec cet esprit, l'impact alors sera visible, surtout qu'ils sont compétitifs, ils seront capables d'aller chercher l'argent. Là, moi, je suis, entre guillemets, seule dans cet exercice. Mais imaginons qu'il y ait une centaine comme ça. Bah, après, on aurait beaucoup, beaucoup de possibilités dans le pays.
Vous faites aussi un travail de sensibilisation sur les filières scientifiques. Qu'est-ce que ça donne comme résultat?
Déjà, avec notre programme Femmes et Sciences, la visibilité que nous mettons sur la recherche, l'impact est déjà là. Beaucoup de jeunes gens sont de plus en plus conscients et veulent se lancer dans la recherche. Donc là, déjà, il y a un impact dans l'intérêt, dans la volonté de vouloir s'engager dans la recherche. Donc je pense que là, nous voyons une courbe qui croît. On a une progression vraiment importante des demandes, même on ne peut pas les satisfaire toutes, mais on voit les demandes, on voit l'intérêt même des parents qui viennent poser des questions, qui veulent qu'on conseille leurs enfants. Donc l'impact est là.
C'est très intéressant que les gens viennent vous voir maintenant, mais du coup ça veut dire qu'avant c'était pas comme ça.
Il y avait peu de jeunes intéressés à la recherche biomédicale, et pas qu'à la recherche biomédicale, à la recherche tout court. Bah, parce que déjà, à l'image du chercheur au Congo, c'est un pauvre le chercheur. Il fait pitié le chercheur au Congo. Il a un salaire de misère. Il fait plus de 10 ans d'études, mais il a un salaire de misère. Personne n'a envie de faire 10 ans d'études et ressembler à un miséreux. Alors qu'un médecin, pour le même nombre d'années, le métier est valorisé. Un scientifique, pour le même nombre d'années, voire plus, c'est un métier peu valorisé. Il n'a pas les moyens, on ne lui donne pas les moyens de travailler, on ne lui donne pas le salaire en reconnaissance de sa formation. Pensez-vous que cela donne envie? Bien sûr que non. Donc il fallait donner une image positive de ce métier et c'est ce que la Fondation congolaise a essayé de faire.
Dans la pratique, comment se passe cette valorisation? Comment vous y prenez-vous pour valoriser les filières scientifiques ou la recherche médicale?
En donnant à ceux qui travaillent, en tout cas à la Fondation, un salaire décent qui leur permette de vivre correctement et de montrer qu'on peut s'épanouir dans la recherche au Congo. Mais pour ça, il faut savoir aller chercher ces financements en attendant que le pays puisse mettre sur la table les moyens que l'on met réellement sur la table d'un chercheur pour qu'il réponde aux besoins du pays. Il fallait leur redonner une image positive. Bon, moi, je suis venue de l'extérieur avec cette image positive parce qu'on ne s'engage pas dans la recherche pour être milliardaire.
Ça serait donc par passion?
Oui, il faut aller dans la recherche privée, dans l'industrie pharmaceutique. Mais on ne va pas à l'université ou dans une institution de recherche pour être riche, non. C'est parce qu'on est passionné par la recherche. Mais on peut être passionné, mais pour autant, on veut pouvoir nourrir sa famille. On veut pouvoir vivre décemment de son travail. Donc ça, c'était important de montrer que c'était possible de vivre décemment au Congo en étant scientifique. Mais il faut que le pays puisse encourager correctement ces scientifiques.
Comment pourrait-on encourager les jeunes à embrasser des domaines comme la recherche médicale?
Pour les encourager correctement, il faut qu'ils aient compris quel est le poids du chercheur. Parce que là, le chercheur était minimisé parce que je pense que nos autorités ne mesurent pas ou ne mesuraient pas l'importance du scientifique. Dans le monde entier, ailleurs, tous les pays industrialisés ont compris. La Chine a progressé très vite. Pourquoi? Mais parce qu'elle a su faire revenir tous ces scientifiques formés aux États-Unis. Aux États-Unis, vous savez bien que vous allez dans les laboratoires, les trois quarts, il y a beaucoup d'Asiatiques. Et ce sont eux qui tiennent les labos, c'est eux la connaissance. Si on sait faire revenir sa diaspora qui a une très bonne connaissance, mais cette diaspora va faire un bond dans le pays.
Et cela pourrait booster les progrès.
Et quand si on leur met les moyens d'utiliser ce qu'ils ont appris ailleurs, les progrès vont aller extrêmement vite. Les autres ont compris ça, donc il faut faire revenir les scientifiques congolais qui sont en Europe, qui sont aux États-Unis, pour qu'ils viennent appliquer ce qu'ils ont appris là-bas, ici.
Comment s'y prendre pour attirer ces scientifiques qui sont à l'extérieur?
Pour les attirer, il faut qu'ils puissent nourrir leur famille. Il faut qu'ils puissent vivre correctement. Sinon, personne ne viendra, bien entendu. Personne. Les gens, quand même, veulent vivre correctement. Ils n'ont pas fait 15 ans, 10 ans d'études pour vivre comme des mendiants. C'est pas possible. C'est pas possible.
Ça fait 10 ans, presque 11 ans, que la Fondation congolaise pour la recherche médicale existe. Quels sont vos projets d'avenir?
Les projets, c'est continuer, c'est augmenter. Nous mettons en place des équipes multidisciplinaires. Par exemple, on a formé un bioinformaticien. C'est le premier bioinformaticien formé. Nous voulons que lui puisse former plusieurs bioinformaticiens, plusieurs qui aient beaucoup de biostatisticiens en recherche biomédicale et en sciences humaines. Donc, on veut que dans chaque discipline, il y a une pépinière. Ça, c'est notre vision. Maintenant, au niveau de la Fondation congolaise pour la recherche médicale, nous avons maintenant un centre de recherche sur les maladies infectieuses qui est soutenu par la Fondation Mérieux.
La Fondation, elle a des partenaires qui la soutiennent financièrement?
De plus en plus de bailleurs de fonds internationaux qui voient que ce que nous faisons un travail de qualité, ben je voudrais que la Fondation devienne de plus en plus puissante, de plus en plus forte, qu'elle puisse mieux répondre aux besoins, mieux assister le ministère de la Santé, le ministère de la Recherche, mieux l'appuyer pour pouvoir répondre aux besoins de santé de la population. Parce que, encore une fois, on ne peut pas tout attendre aussi du gouvernement. Quand on regarde la recherche en France, par exemple, que je connais bien, il y a le secteur privé et le secteur gouvernemental, le secteur public. Il faut que les deux marchent main dans la main. Il faut qu'au Congo, si on veut que ça fonctionne, il faut la même chose. Je ne vois pas pourquoi dans les pays dits développés, ils ont compris que le secteur public à lui seul ne peut pas s'en sortir et qu'au Congo, le secteur public serait champion et pourrait s'en sortir. Ce n'est pas vrai.
Professeur, quelle est alors votre vision?
Pour moi, la vision, c'est que la Fondation soit de plus en plus forte pour pouvoir jouer encore mieux son rôle, qu'il y ait un impact visible. Je voudrais qu'il y ait un impact visible sur la population, sur la santé de la population congolaise.
Merci beaucoup, professeur. Mais la recherche en général était un domaine plutôt dominé par les hommes. Comment appréciez-vous l'engagement des femmes dans le domaine de la recherche médicale, soit au Congo, soit en Afrique?
Dans la recherche scientifique, en Afrique, il y a environ 30% de femmes. Au Congo, on est à 10-13% selon l'UNESCO. Bon, c'est pas beaucoup, c'est très faible. On est parmi les derniers. Donc, l'engagement des femmes dans les sciences est encore faible. Il y a un effort, là aussi, les stéréotypes sur les femmes engagées dans les sciences sont négatifs et donc ne donnent pas l'envie aux femmes de s'engager. Et là aussi, il faut donc casser ces stéréotypes et la Fondation congolaise pour la recherche médicale s'y emploie.
Comment vous y prenez-vous?
en menant des campagnes de sensibilisation au sein de la population, dans les écoles, à l'université, à la télévision, à la radio. Déjà, moi, je suis une femme et je dirige la Fondation Congolaise pour la Recherche Médicale. C'est la première fondation de ce type au Congo, donc dirigée par une femme.
Un très bel exemple.
Je pense que j'ai montré qu'en tant que femme, j'ai pu, à titre personnel, montrer que j'étais une bonne scientifique. Donc, je montre par mon exemple que c'est possible pour une femme congolaise d'avoir du succès dans les sciences. Et donc ça, c'était important aussi de montrer cela parce qu'en Afrique, il y a un manque cruel de modèles auxquels les jeunes puissent s'identifier. Parce que quand on a 10, 12 ans, on a envie de ressembler à quelqu'un. Nous nous employons à essayer de mettre en lumière les femmes scientifiques pour donner envie aux jeunes filles, aux élèves, aux écolières, de rêver de devenir des femmes scientifiques.
Merci beaucoup, professeur, d'avoir été notre invité pour cette émission.
Ben, c'est moi qui vous remercie pour cet entretien.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
C'était l'interview que nous a accordé le professeur Francine Ntoumi, biologiste moléculaire. Le professeur Ntoumi est aussi présidente de la Fondation Congolaise pour la Recherche Médicale à Brazzaville au Congo. Elle forme également des étudiants et des personnels en recherche biomédicale. Maintenant, vous allez suivre Carnet de Santé avec Linor Moudou.
Cette semaine, dans Carnet de Santé, de la lutte contre la rage en Éthiopie aux efforts mondiaux pour freiner la propagation du Covid-19 et au développement de lentilles de contact intelligentes qui ouvrent les yeux. Nous revenons sur quelques histoires qui ont marqué l'année 2021. C'est dans cette édition de Carnet de Santé. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Carnet de Santé. 2021 a été une année très mouvementée. Certains progrès ont été réalisés dans la santé, tels que le premier vaccin contre le paludisme, homologué par l'Organisation mondiale de la santé. Il y a eu aussi d'énormes défis, notamment avec le coronavirus qui continue de se propager. Mais on commence tout de suite avec la rage, une maladie qui peut se propager aux humains et aux animaux domestiques s'ils sont mordus ou griffés par un animal enragé. Les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies, les CDC, ont signalé que chaque année, des milliers de personnes sont infectées par la rage en Éthiopie et qu'environ 2700 personnes en meurent. L'un des taux de mortalité par rage les plus élevés du monde. Reportage de Dawit Edjegou à Addis Ababa avec la voix de Dili Diko.
Selon l'Organisation mondiale de la santé, la rage est une maladie virale pouvant être évitée grâce à la vaccination. Des campagnes de vaccination sont menées dans plus de 150 pays et territoires. L'Éthiopie fait partie des principaux pays au monde où le virus fait des milliers de morts chaque année, selon les données de l'Institut éthiopien de la santé publique. L'OMS explique que les chiens sont la principale cause de la propagation de ce virus mortel à l'homme.
Cette maladie est une pathologie mortelle. Lorsqu'une personne présente les symptômes de la rage, il est en général trop tard pour la traiter et elle encourt le risque de mourir. C'est ce qui rend cette maladie différente des autres. Cette maladie s'attaque également à d'autres animaux, comme les renards et les chauves-souris.
Selon l'Institut éthiopien de la santé publique, les cas de rage augmentent pendant la saison des pluies en Éthiopie, principalement de juillet à septembre. Les régions du Tigré et d'Amara connaissent le plus grand nombre de cas.
Actuellement, nous estimons qu'environ 2700 personnes meurent chaque année du virus de la rage en Éthiopie. En tant qu'expert, je dirais que ces données ne sont pas tout à fait exactes, car de nombreux cas ne sont pas diagnostiqués.
Le docteur Cissé Guettatiou, directeur du répertoire de vétérinaires au ministère de l'Agriculture, a également déclaré que la rage tue des animaux comme les vaches, les chèvres et les moutons.
Si le nombre de chiens errants augmente ou si les propriétaires de chiens ne vaccinent pas leurs animaux, les cas de rage vont également augmenter.
Le docteur Yimer explique qu'il existe deux types de vaccins contre la rage, mais l'Éthiopie ne produit que le vaccin des tissus nerveux, qui est aujourd'hui considéré comme étant moins efficace et incompatible avec le dernier vaccin, le vaccin de culture cellulaire.
Ce vaccin est passable, mais le vaccin de culture cellulaire est plus efficace et plus sûr pour les enfants et les femmes enceintes. Malheureusement, nous ne le fabriquons pas ici et nous devons l'importer à coût très élevé, ce qui le rend moins accessible.
Selon le docteur Yimer, l'Éthiopie travaille avec plusieurs agences pour contrôler la propagation de la rage d'ici l'année 2030.
Nous passons maintenant au véganisme ou végétalisme intégral, une pratique consistant à s'abstenir d'utiliser tout produit d'origine animale, y compris dans l'alimentation. À Nairobi, au Kenya, de plus en plus de personnes adoptent ce mode de vie et le mouvement végétalien gagne du terrain dans la région. Uba Abdi de VOA a visité Soul Vegetarian, un restaurant à Nairobi. Mohamedou Mfa raconte.
Joyce Njoroge est une cliente régulière du restaurant Soul Vegetarian à Nairobi. Elle fait partie des rares Kenyans à pratiquer le véganisme. Joyce fait savoir qu'elle tombait assez souvent malade, mais depuis qu'elle est devenue végétalienne, les choses ont changé.
Avant de devenir végétalienne, je contractais de nombreuses maladies et je ne comprenais pas exactement ce qui m'arrivait. Un jour, j'ai commencé à penser que la nourriture que je mangeais était peut-être le problème et pendant cette période, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a introduit au végétalisme et j'ai commencé à comprendre qu'il existe des types d'aliments qui aident notre corps et rendent notre corps résistant aux maladies.
Les Kenyans, comme beaucoup d'autres Africains, adorent les steaks et côtes de viande. Agneau, bœuf ou poulet grillé sur le nyama choma sont des mets habituels.
Une chose qu'il faut savoir sur le Kenya, c'est que c'est le pays du nyama choma. Notre approche a été la bonne. Elle a été lente, mais bonne. Depuis 2015, quand je suis arrivée ici, jusqu'en 2021, la croissance du véganisme et de tout l'aspect santé de l'alimentation a énormément augmenté. Je dois donc dire que la réponse a été bonne, car en 5 ans, le véganisme est plus populaire qu'avant et sa croissance est exponentielle.
Daniel Aram a quitté les États-Unis pour le Kenya en 2015. Elle a lancé Soul Vegetarian, un restaurant végétalien au cœur de Nairobi, une ville bien connue pour l'amour du bœuf grillé, connu sous le nom de Nyama Choma.
Quand j'étais aux États-Unis, je cuisinais des plats végétaliens. J'avais un restaurant végétalien. Je voulais voir comment le véganisme fonctionnerait ici au Kenya. Je voulais partager ce que je savais et comprenais du véganisme et à quel point c'était nécessaire ici au Kenya. Je voulais aussi avoir un endroit pour manger végétalien pendant que j'étais ici.
L'alimentation à base de plantes est de plus en plus recommandée par les scientifiques et les sociétés de nutrition dans le monde. Une alimentation saine qui, si elle est suivie de manière continue, peut réduire le risque de nombreuses maladies liées au mode de vie. Mais beaucoup pensent qu'il n'est pas facile d'abandonner des aliments comme le lait et le bœuf.
La pandémie de COVID-19 a continué de dominer l'actualité mondiale cette année. Au moins 5 millions de personnes ont perdu la vie à cause du virus. Selon les experts, la meilleure défense contre le virus est de se faire vacciner et les recherches continuent dans le domaine. Carole Persson de VOA explique certaines approches dans le développement des vaccins. C'est avec la voix d'Abdourahmane Dia.
Certains pensent que si vous tombez malade après avoir été vacciné, c'est parce que le vaccin a échoué. Pas vrai.
L'objectif de la vaccination est de réduire la gravité de la maladie et non de prévenir complètement l'infection.
Plusieurs études montrent que les risques d'hospitalisation ou de mort liés au COVID-19 sont considérablement réduits pour les personnes vaccinées. Les méthodes de fabrication de vaccins les plus anciennes utilisent soit un virus vivant, soit un virus mort pour déclencher une réponse immunitaire. Différents vaccins anti-polio ont utilisé les deux. 3 vaccins contre le COVID-19 utilisent des adénovirus affaiblis ou des virus qui causent le rhume. Oxford AstraZeneca utilise un adénovirus de chimpanzé qui a été affaibli pour ne pas rendre les gens malades. Les vaccins Sputnik et Johnson & Johnson utilisent des adénovirus humains affaiblis qui peuvent provoquer des rhumes.
Vous ne faites pas que créer une réponse immunitaire à l'adénovirus, mais vous créez également une réponse immunitaire à la protéine qu'il code, la protéine de pointe qui fait partie du virus causant COVID.
Les premières doses de Johnson & Johnson et de Sputnik sont faites avec un adénovirus humain rare, AD25. Johnson & Johnson était autrefois considéré comme un vaccin à dose unique. Mais en octobre, le Conseil consultatif de la Food and Drug Administration des États-Unis a recommandé l'utilisation d'un rappel pour augmenter son efficacité. La deuxième dose de Sputnik contient de l'AD5, un virus adénoviral auquel les gens sont fréquemment exposés. Les scientifiques craignent que Sputnik ne puisse offrir une protection suffisante contre le COVID-19. Il existe d'autres façons de fabriquer des vaccins qui n'utilisent pas de virus ou de bactéries, des agents pathogènes qui pourraient causer des maladies. La dernière technique implique des vaccins à ARN messager qui sont produits par Moderna et Pfizer-BioNTech.
Vivre une vie plus saine, est-ce l'un de vos objectifs en 2022? Si oui, voici quelques conseils. Gardez un horaire de sommeil cohérent. Les experts conseillent de dormir environ 8 heures par jour. Bien se nourrir, consommer suffisamment de fruits, de légumes et de protéines. Faites de l'exercice physique régulièrement. Le sport a de nombreux avantages, tels que la prévention des maladies cardiovasculaires et l'amélioration de la santé musculaire. Enfin, protégez-vous contre le COVID-19 en portant un masque, en vous lavant les mains régulièrement et en évitant la foule dans la mesure du possible. Le nanisme est une condition qui cause un ralentissement de la croissance et peut être provoqué par différentes causes, le plus souvent génétiques. Cependant, l'achondroplasie est la cause la plus courante du nanisme. Nous avons recueilli le témoignage de Joachim Wangi, fondateur et président de l'organisation Short Stature Society of Kenya. Regardez.
Nous préférons que les gens nous appellent personnes de petite taille plutôt que de nains. Et j'avais 5 ans, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je ne grandissais pas normalement. Ma mère m'a amené à l'hôpital, mais le docteur disait que j'allais bien. Je ne savais pas que j'avais le nanisme. Au Kenya, nous n'avons pas de médecins spécifiques qui s'occupent des enfants vivant avec le nanisme. Donc la plupart des recherches qu'ils faisaient, ils ne pouvaient pas me dire le type de nanisme dont je souffrais jusqu'à ce que je vienne en Amérique il y a 5 ans. Il était trop tard pour que je reçoive des rappels hormonaux. Lorsqu'un enfant naît avec un nanisme hypophysaire, il reçoit des boosters hormonaux pour générer des hormones de croissance. Nous n'avons pas ce type de médicaments ou de machines pour détecter quand un enfant a ce type de maladie à la naissance, donc rien n'aurait été fait. Les femmes ont le plus de problèmes médicaux car elles sont si petites, donc quand elles tombent enceintes, la plupart d'entre elles ne peuvent pas porter l'enfant pendant 9 mois. Ainsi, à cause de ces défis et même du rejet de la société, nous avons des mamans qui ont même fui leur communauté parce que les communautés pensent qu'elles apportent des mauvaises choses ou de la malchance.
Prends tous les jours pour obtenir des informations. Mais, et si cette expérience pouvait être livrée directement à vos yeux? C'est ce que certaines entreprises espèrent accomplir avec des lentilles de contact intelligentes, des lentilles dans lesquelles le champ de vision d'un utilisateur est recouvert d'informations numériques.
Vous pouvez vous promener avec un affichage 24h/24 et 7 jours sur 7 dans le monde.
Cela peut sembler un concept lointain, mais les ingénieurs des startups développe déjà des lentilles intelligentes qui associent la réalité améliorée aux lentilles de contact de tous les jours.
C'est ici que prend fin notre magazine Santé, votre avenir de cette semaine. Il était consacré à l'impact de la recherche biomédicale en Afrique sur la santé des populations. Nous avons interviewé le professeur Francine Ntoumi, biologiste moléculaire. Le professeur Ntoumi est aussi présidente de la Fondation congolaise pour la recherche médicale à Brazzaville au Congo. Elle forme également des étudiants et des personnels en recherche biomédicale. Ensuite, vous avez suivi Carnet de santé présenté par Linor Moudou. Ce rendez-vous santé a été réalisé grâce au concours de Cheikh Tiro et de Nelson Lopez qui était à la console. Devant ce micro, Nanit Talani. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.
C'était Votre Santé, Votre Avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voaafrique.com.